18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir, bonsoir chers amis auditeurs. Merci d'être avec nous et de nous suivre comme chaque soir, vous le savez. C'est un plaisir partagé puisque vous êtes de plus en plus nombreux et ça, et vous le savez, ô combien, c'est votre magazine. Les Informés, c'est de 18h à 19h30. On est là pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors au sommaire, chers amis auditeurs, plusieurs choses. D'abord, direction le Qatar avec Doha, l'association Sport Avis, Samir Adjouadi et un des jeunes qui va venir ici en direct nous commenter ce match de l'équipe de France. Il ne faut pas sous-estimer son adversaire, chers amis. Ah, c'était chaud pour les Bleus, hein. Griezmann à la dernière minute. À but annulé, on me dit. But annulé. Bon, eh bien écoutez, vous savez quoi? On va commenter tout ça, ici même. Et également, d'abord à 18h30 aussi, avec le Quad 9, le docteur Majid Siouxsine viendra nous livrer son regard sur la Chine, le Qatar, un regard géopolitique avec lui. Mais également, là, maintenant, au 01 53 48 3000, et notre ancien commandant de la police, Jean-Pierre Colombiès, qui est le porte-parole des policiers indépendants, eh bien il sera avec vous en direct. Pour vous conseiller, vous apporter évidemment tous les outils nécessaires pour vous dire comment faut faire, à la fois pour porter plainte, pas porter plainte, pour conseiller si vous devez vous rendre dans un commissariat, ou tout simplement voir comment s'adresse un procureur. Nous allons prendre le temps, évidemment, d'échanger avec vous. Et puis, les débatteurs influenceurs commenteront leur regard sur 3-4 sujets d'actualité. Voilà le programme que je vous propose, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et comme chaque soir, nous allons vous faire vivre cette Coupe du Monde, direction Doha, le Qatar.
Les Informés, la Minute Coupe du Monde, avec Sport Avis.
Avec les jeunes reporters en herbe qui sont avec nous de l'association Sport Avis. Samir Adjouadi, bonsoir.
Salut Adil.
Bonsoir, comment ça va depuis Doha? Le match vient de prendre fin, Tunisie-France, 1-0 pour la Tunisie. Qu'est-ce qu'on peut dire après, comment je dirais, but annulé de Griezmann, hein?
But annulé alors qu'on était dans l'euphorie totale. Mais bon, écoute, hein, ça ne nous empêche pas d'avoir été qualifiés. Et puis, je crois que malheureusement, la Tunisie n'a pas été qualifiée. Parce que le match avec l'Australie, je crois que l'Australie a gagné son match.
Oui.
Donc, écoute, on est super contents. C'est l'euphorie totale, en fait, dans le stade, là.
L'euphorie totale, c'était quand même, on peut dire quand même quelques mots. Est-ce que je peux dire que c'est l'équipe B qui a remplacé, évidemment, ceux qui sont titulaires jusqu'ici? Mais est-ce que, finalement, le coach Descamps n'a pas, comment dirais-je, commis une maladresse en sous-estimant l'adversaire qui est la Tunisie?
Oui, et en même temps, est-ce que ça n'a pas été stratégique? Est-ce que justement, faut pas faire attention parce que pour le prochain match, on risque de tomber contre l'Argentine. Donc, est-ce que c'est pas stratégique pour éviter l'Argentine?
Certainement, de la stratégie. Comment ont vécu les jeunes de l'association Sport Avis, les jeunes de l'école, des écoles primaires, mais également des collégiens? Avec qui nous serons ce soir, Samira?
On sera avec Adam.
Adam, il a quel âge? Il est...
Adam, il a 15 ans.
Il a 15 ans, il vient des Ulysses, pareil?
Exactement, exactement.
Alors Adam, bonsoir.
Eh ben, je te le passe.
Allô.
Bonsoir Adam, il a 15 ans, donc il doit être en 3e, Adam.
Nathan.
14 ans? Non.
Nathan.
Nathan, vous êtes en 3e, tu es en 3e, Nathan?
Oui.
Et tu viens des quartiers des Ulysses?
Oui, des Ulysses.
Et de l'association Sport Avis. Alors ce match, c'était pas chaud là? Comment tu l'as vécu? Tu sors à peine du match, comment tu l'as vécu, mon cher Nathan?
Il était vraiment palpitant. Surtout à la dernière minute, le dernier but, et après il s'est mis la VAR et je ne sais pas pourquoi ils ont dit qu'il était hors jeu.
Bah, c'était hors jeu, effectivement. La FIFA, l'arbitre de la FIFA a décidé ainsi.
Pourtant, il a tiré en arrière.
Ah ouais, comment tu as trouvé? Ouais, pardon. Qu'est-ce que tu dis, Nathan?
Il s'est reculé pour tirer, il n'y avait pas hors jeu.
Pour toi, il n'y a pas hors jeu, Nathan. Hein.
Ouais, parce que Griezmann, il a reculé.
Donc ça t'agace?
Ouais, un peu.
Et dis-moi, Nathan, ce match, justement, comment tu as trouvé les joueurs de l'équipe de France durant cette deuxième période, mais également aussi la première période face à la Tunisie?
La première période, ils ont commencé à se réveiller. Les premières mi-temps, ils jouaient pas trop bien. Ils voulaient que défendre, ils essayaient pas de marquer, ils faisaient que sécuriser.
Ouais.
Les deuxièmes mi-temps, ils étaient bons.
Ils étaient bons la deuxième mi-temps.
Oui.
Est-ce que Nathan, tu considères que ça a été une mauvaise stratégie de la part du coach, justement, de mettre ceux qui ne sont pas titulaires jusqu'ici?
Après, moi, je crois qu'il a fait ça pour esquiver l'Argentine.
Ouais, pour esquiver l'Argentine. Donc, c'est stratégique.
Je crois. Hein.
Nathan, dis-moi, comment ça se passe à Doha, au Qatar? Tu passes de bons moments, ça se passe bien?
Ouais, super bien, super bien. J'ai que de profiter tous les jours là des activités. C'est vraiment super bien.
Ouais. Tu gardes un bon souvenir jusqu'ici?
Ouais, oui, bien sûr. Je vais le garder pendant longtemps, mes souvenirs ici.
C'est exceptionnel ce que tu vis à 15 ans, quand on est en troisième, Nathan, d'aller vivre une Coupe du Monde. C'est la première fois pour toi?
Oui, c'est la première fois. Même des matchs en scène, c'est la première fois.
Excellent.
C'est un truc exceptionnel.
Ah, un souvenir que tu vas graver à vie, c'est une première pour toi de vivre cette Coupe du Monde à Doha. Qu'est-ce que tu retiens de Doha? Qu'est-ce que tu retiens de Doha, de l'accueil, de tout, Nathan?
Ben, Doha, c'est un pays très, très, très chaleureux. Il y a vraiment beaucoup d'origines. Il n'y a pas que des Qatariens. La plupart des gens, ils viennent même pas du Qatar. Il y a plein de migrants. C'est ça qui est bien. Il y a plein d'origines et de cultures différentes mélangées.
Tout se passe bien?
Oui, tout se passe très, très bien. Le Qatar, c'est vraiment un pays très civilisé.
Ouais, j'imagine. Effectivement, je connais pas, mais de ce que je vois, quels sont les meilleurs... qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce qui t'a frappé, Nathan, jusqu'ici, parmi toutes les visites que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as préféré, en gros?
Le truc que j'ai préféré, c'est le musée des sports.
Le musée des sports?
Oui.
C'était bien.
Ouais.
Bon, bah écoute, je pense que tu en as encore pour quelques jours au Qatar, à Doha.
Non, qu'est-ce que tu as envie de... On rentre demain.
Demain, ah oui, vous rentrez demain. Ah oui.
Ouais, je dis à 4 heures du matin.
Eh bien, écoute, vite et quelques heures. J'entends le stade derrière, non? Vous êtes encore au stade?
Oui, on est encore au stade.
Bon, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui ont ton âge, qui t'écoutent partout en France, Nathan?
Ben, lâchez pas, si les études, ça va payer un jour.
C'est vrai. C'est vrai, il faut rien lâcher. Ne jamais lâcher. Merci Nathan d'être intervenu.
De rien.
Depuis Doha, depuis cette Coupe du Monde. Bravo en tout cas, c'est bien ce que vous faites. Hein.
Merci.
Samira est à tes côtés. Samira?
Oui, vous la passe.
Je vois, j'entends, le stade derrière vous. Je vois qu'il y a encore de l'ambiance. Hein.
Exactement. Alors attends, on te fait une petite surprise. Cela après, on prend l'avion pour rentrer en France. Donc, ne quitte pas, Adil. Écoute mon groupe. C'est parti!
Une clochette, écoutez ça, bravo, bravo,
voilà,
bravo
voilà,
à tous ces jeunes, là. Bravo, de ce que je comprends, il est un peu dégoûté de rentrer, Nathan, hein.
Ah bah tous, je crois que là, c'est, voilà, tout le monde...
Je ne savais pas que le dernier jour, c'était demain, alors, est-ce qu'on va vous retrouver dans les prochains jours?
Ah bah oui, à la fois peut-être sur le plateau et aussi au téléphone.
Mais si, vous allez venir. Mais vous allez venir en direct sur le plateau. On va faire une émission spéciale.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Profitez de ces derniers instants, de ces quelques heures qui vous restent encore. Qu'est-ce que vous allez vivre encore avant de repartir demain et de prendre l'avion?
Là, on va aller dans la fan zone pour aller vivre le match de 22h. Parce que le match de 22h va aussi déterminer la prochaine équipe qu'on va rencontrer pour les huitièmes.
Ouais.
Donc, on va rester un peu dans l'ambiance qatarie qui est assez exceptionnelle quand même.
Exceptionnel. Bravo en tout cas aux jeunes de l'association Sport à Vie, bravo aux collégiens, bravo aux élèves des différentes, j'ai bien compris, des écoles élémentaires. Bravo à vous, bravo. On viendra faire le bilan ici même en direct. Alors est-ce que je vous...
Avec
donc
plaisir,
si j'ai bien compris, demain nous ne serons pas en direct à Doha demain avec vous.
Alors de Doha non, mais sûrement de Paris.
Alors de Paris demain. Alors demain de Paris, on fera, avant de vous retrouver sur le plateau pour faire un petit bilan.
Avec plaisir.
Embrassez tout le monde et bravo à vous tous, ma chère Samira, à tous ces jeunes.
Merci beaucoup, Adil.
Comment se porte notre jeune reporter, la future journaliste? Comment elle va?
Super, la petite Salma, écoute, super.
Elle va bien?
Toujours à vous.
Bon, elle va venir. Il faut qu'elle vienne chroniquer. Il faut qu'elle vienne faire des chroniques chez nous.
Ah bien sûr. Sans problème, Adil.
Merci, Samira, et bravo à vous tous. Merci. Je vous laisse aller vivre et faire la fête. À bientôt dans la fan zone.
Exactement.
18h12, c'est parti. Merci à vous. Tout de suite, c'est parti. Le jingle de fermeture. On se retrouve avec Jean-Pierre Colombiès.
Vibrez au rythme de la Coupe du Monde sur Beurre FM. Avec le soutien du ministère chargé de la ville.
Ça vous fait rire, hein, Jean-Pierre Colombiès. Fais le droit à Jérôme, maintenant Jean-Pierre. Ouais, je vais tous les faire. Hein.
Tous.
Bonsoir Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir Adil et bonsoir à tous les auditeurs.
Ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui, vous êtes le porte-parole des policiers indépendants d'une association. Donc tout de suite, on ouvre le standard et au 01 53 48 3000 partout en France. Celles et ceux qui vous écoutent, vous savez, vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, où il s'agit simplement de porter plainte, d'une main courante. Quelles sont les différences entre une main courante, absolument, d'une main courante, d'une plainte? Est-ce qu'il faut s'adresser à un procureur? Est-ce qu'on peut, lorsque évidemment on vous interdit de déposer plainte, est-ce que on a le droit de vous le dire?
Non.
Ou pas? Non, toutes ces questions en tous les cas, venez poser toutes les questions qui vous concernent. Vous avez un enfant qui s'est retrouvé en garde à vue, quels sont les tout simplement les outils dont il faut disposer évidemment pour vous armer, pour mieux vous armer. Venez tout de suite interpeller l'ancien commandant de la police et aujourd'hui le porte-parole des polices indépendants. Il vous attend au 01 53 48 3000. Venez l'interpeller. Toutes les questions sont ouvertes. À tout de suite.
Avant de l'interpeller, le questionner, ce sera déjà pas mal.
Allez, à tout de suite. 18h13. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h20. C'est parti l'interview du jour.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et je vais ouvrir l'antenne, 01 53 48 3000, vous le savez. On va accueillir Hassan de Paris, mon cher Jean-Pierre Colombiès, mon cher commandant. Commandant, j'aime bien dire commandant, c'est commandant. Hassan, bonsoir.
Est-ce que, s'il vous plaît, je peux poser une question par rapport à la régularisation?
Bien sûr, vous pouvez poser les questions. Jean-Pierre n'est pas la préfecture, mais il est de la police. Voilà.
C'est ce que j'allais
dire. Mais posez votre question, allez-y.
Bonsoir Hassan.
Et vous écoute Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir, monsieur Jean-Pierre.
Bonsoir.
S'il vous plaît, juste, donc moi je suis rentré en France depuis 2015 et donc j'ai commencé à travailler en déclaré, c'était en 2018 et en 2020 j'ai déposé un dossier à la préfecture de 93, mais pourtant j'ai un dossier complet et tout, malheureusement j'ai un refus, donc j'ai un OQTF plus à l'interdiction de retour, donc et... Après, j'ai fait un recours au tribunal administratif de 93 aussi. Malheureusement aussi, j'ai eu un refus. Donc, et j'ai resté presque, on dit un an et demi.
Ouais.
Et j'ai changé l'adresse sur Paris.
Ouais.
Et voilà, donc j'ai demandé un rendez-vous pour avoir un rendez-vous à la préfecture de Paris.
Ouais.
Mais... malheureusement, ils m'ont pas donné un rendez-vous.
Bon, Jean-Pierre Colombiès.
Oui, alors je précise tout de suite.
Sur un cas de figure.
Voilà.
Il ne représente pas la préfecture.
Je ne représente pas la préfecture. Je ne suis pas spécialiste.
D'accord.
On va le dire tout de suite. Je ne suis pas spécialiste des procédures en régularisation. Parce que je sais que c'est compliqué, que c'est un peu le fait du prince. Si votre dossier malheureusement est en dessous de la pile, étant donné le nombre de dossiers qui sont à traiter, ça prend énormément de temps. Vous travaillez ?
Oui, je travaille. Oui, électricien plombier.
Donc vous avez un emploi, vous avez aucune raison. Ça fait partie de votre cas de figure et vous payez des impôts, j'imagine. Votre dossier, votre cas fait partie de ce que j'ai régulièrement dénoncé ici même sur ce plateau. Hein, c'est l'incohérence de ce statut de détenteur de permis de séjour qui arrive à expiration, qui n'est pas renouvelé et qui fait automatiquement du détenteur de ce titre non renouvelé un délinquant. Et à qui on va notifier une OQTF. Bon, c'est parfaitement anormal. Maintenant, est-ce que vous avez un avocat ?
Oui, je n'ai un avocat, oui.
Et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, est-ce qu'il a saisi, est-ce qu'il lâche pas le dossier ? C'est ça l'idée, hein ?
Bah, normalement, il a fait vraiment un effort, même au tribunal, mais malheureusement, j'ai un refus aussi au tribunal.
Mais le motif comment, ce refus ?
Le motif, ils ont dit que, comme quoi, j'ai pas de famille, donc, voilà, donc... C'est ça le motif.
Ah, parce que vous n'avez pas de famille, vous, on peut vous notifier
de l'OQTF. Moi, le problème, j'ai déposé un dossier salarié, c'est pas familial. Donc...
Mais vous êtes marié ou pas ? Vous avez une famille
non,
ou pas ?
Non, j'ai une copine française.
Est-ce que vous avez fait une déclaration de concubinage ?
Oui, j'ai déclaré, oui. Mais pendant le recours, mais pas pendant la préfecture, le dépôt de la préfecture.
Donc la préfecture ne sait pas que vous êtes en concubinage ?
Non.
Il faudrait peut-être
mais le tribunal, j'ai déclaré tout, mais malheureusement, j'ai un refus aussi.
Ouais. Bon. Là, je vous avoue que j'ai pas de réponse technique à vous donner puisque vous avez tout fait. Vous avez suivi la procédure. Je n'ai pas, comment dire, de solution miracle quand la préfecture ne traite pas le dossier. Puisque vous avez fait exactement ce que je vous aurais conseillé de faire, tout simplement. Mais si votre avocat lui-même n'arrive pas à débloquer un dossier qui, pour moi, ne nécessite pas de blocage, pardon, est-ce que vous avez un dossier pénal ? Bon, c'est indiscret ce que je vous demande, mais est-ce que vous êtes connu des services de police ?
Non.
Vous n'avez pas de casier judiciaire ?
Non.
Bah alors, normalement, on doit vous régulariser. Je ne comprends pas.
Moi, ma question, c'est juste par rapport que peut-être quand j'ai l'OQTF plus l'interdiction, c'est pour ça que vous ne voulez pas me donner un rendez-vous, peut-être ?
Ben, en général, on bloque. Il faut être clair. Ah. La politique actuelle, elle est claire. Et je pense que vous êtes une victime collatérale des instructions du ministère de l'Intérieur. Il l'a dit, pourrir la vie aux OQTF. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il faut faire preuve un peu de bon sens et de discernement. Et je pense que si on veut pourrir la vie aux gens qui ont été condamnés ou qui ont un dossier judiciaire, là, je comprendrai la démarche. Mais des personnes qui, comme vous, travaillent, payent des impôts et mènent une vie tout à fait normale, il n'y a aucune raison valable pour qu'on le... Je vous le dis clairement sur cette antenne, hein, je pense que pas mal de gens nous écoutent aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a aucune raison qu'on ne régularise pas votre situation. On va être très clair. Moi, je fais véritablement la part des choses. Non, mais je fais parfaitement la part des choses entre une immigration qui est une immigration parasitaire, qui vient profiter d'un système, et puis des gens comme vous qui viennent bosser, qui bossent normalement, qui payent des impôts. Pour moi, il n'y a pas de débat. Vous devez être régularisé.
Voilà. Voilà, ça, à mon avis, les conseils précieux de Jean-Pierre Colombier sont très clairs.
Je ne peux pas donner de conseils techniques plus, puisqu'il a fait ce qu'il fallait faire.
D'accord.
À partir que c'est pas trop normal qu'ils soient pas régularisés, je ne peux pas vous.
Oui, franchement, moi, ça me fait mal parce que j'ai dit presque 8 ans ici.
Oui, mais je retiens quand même tout de même à Hassan que Jean-Pierre Colombiès a quand même dit quelque chose qui est rassurant, c'est-à-dire que votre dossier est relativement clean.
Il est sain.
Il est sain. Et que, bon, a priori, quand je l'écoute parler, Jean-Pierre Colombiès, il dit voilà, les choses normalement devraient rentrer dans l'ordre. Voilà.
Moi, ce que j'ai dit, juste, au moins, il faut qu'ils nous donnent un rendez-vous, au moins, pour déposer un dossier, pour tenter une autre chance, déjà.
Déjà, et puis je trouve que la réponse qui vous est faite, du style que vous n'avez pas de famille sur le territoire national, et donc on doit vous renvoyer chez vous, alors que vous travaillez et que vous payez des impôts, pour moi, n'est pas une réponse valable.
Non.
Vous seriez un délinquant, je vous dirais, monsieur, partez. Voilà, je vous dirais clairement. Hein,
Et surtout qu'il est là depuis plusieurs années.
Moi aussi, je suis d'accord.
Voilà, c'est tout. Plusieurs années aussi.
Ouais. Non, mais c'est voilà. Bon, là, on est dans le cas un peu kafkaïen d'une politique qui perd ses repères bien souvent.
01 53 48 3000. Okay. 01.
Merci beaucoup.
Oui. Bonne soirée
à vous
et bon courage. Bon courage. 01 53 48 3000. Justement, venez poser vos questions à l'ancien commandant de la police si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être accompagné, d'être aiguillé. C'est ici que ça se passe, 01 53 48 3000. Je voudrais vous poser une question avant d'accueillir encore les auditeurs. Comment ça se passe lorsque je me rends au commissariat, que j'ai envie de porter plainte et qu'on m'oriente plutôt vers une main courante ? Est-ce qu'il y a une différence entre une main courante et une plainte ?
Bien sûr.
Mon cher, Commandant.
Oui, oui, bien sûr qu'il y a une différence notable, une plainte. Alors, ça va dépendre aussi de des instructions qui sont données, des instructions entre guillemets politiques. Une main courante est faite, en général, j'en ai fait, beaucoup de gens en font, pour éviter de déclencher justement une procédure pénale, au sens agressif du terme. C'est lorsqu'on veut plus signaler un état de fait, une problématique qu'on peut rencontrer dans le voisinage, par exemple, ou une problématique de couple dans, au sein de, d'une famille, mais qu'on ne tient pas à dépasser pour le moment le stade de la déclarative, du stade déclaratif, mais sans conséquence procédurale.
Donc si j'ai bien compris, elle n'aboutit pas la main courante.
C'est pas qu'elle aboutit pas, c'est qu'elle a pas vocation à aboutir. Elle, elle est là vocation. Pour donner, laisser une trace.
Laisser une trace.
Voilà, c'est ça, c'est ce qui est, c'est l'intérêt de la main courante.
Et la plainte ?
Et la plainte, c'est lorsque véritablement on veut dénoncer un délit, on veut dénoncer un fait qui vous a nui gravement et que vous voulez pour le coup que la partie adverse soit entendue et
donc
que
là on engage une procédure.
On engage une procédure et là le parquet est avisé, on est véritablement dans
il y a quand même une différence notable quand même.
Il y a une différence notable et je pense que la guerre qui est faite, la guerre injuste qui est faite à la main courante est catastrophique. Et j'en veux pour preuve notamment les problématiques de couple. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a dit, on a décrété politiquement de manière très très démagogique que dès qu'il y avait une main courante, il fallait déclencher une procédure, en avertir le procureur et donner une ampleur plus importante à ce mode déclaratif. Et je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que bien souvent, si vous aggravez la situation qui a fait l'objet d'une main courante, ben vous détériorez une situation qui parfois ne peut être plus rattrapable.
Commandant de la police, ancien justement et porte-parole des policiers indépendants, Sofiane de Courbevoie du 92. Bonsoir Sofiane.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, bonsoir. On vous écoute. Quelle est votre question en direction du porte-parole de la police indépendante, monsieur Jean-Pierre Colombiès?
Oui, merci. Alors moi je vous appelle en fait, j'ai une question par rapport à une situation que j'ai vécue il y a quelques mois. Alors je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu un accident, c'est pas un accident en fait de voiture. Bon, une fois j'avais oublié de mettre mon frein à main, donc du coup ma voiture a glissé et a tapé une voiture. On était en plein parking. Une voiture en face de moi, donc oui. Et donc du coup, le propriétaire a demandé de faire une constat à l'amiable qu'on a commencé à faire. Mais entre temps, il y a son père qui est venu et donc du coup, son père était un petit peu agressif, donc il a commencé à menacer. Bon, ça
a dégénéré.
Bon, c'est devenu un petit peu compliqué.
Ouais.
Et en fait, il m'a imposé carrément à écrire ce que lui il veut. Donc du coup, ça a un petit peu dégénéré. Du coup, moi, j'ai appelé la police.
Oui.
J'ai appelé la police, ils se sont présentés. Et en fait, ils m'ont même dit que j'étais pas obligé de faire le constat. Ils m'ont même demandé de partir pour que les choses se calment.
Oui. Donc, quelle moi, est votre question parti.
Ouais. Alors moi, je suis parti en fait. Et derrière, les voisins m'ont dit qu'apparemment, il va déposer plainte contre moi. Donc en gros, sauf que... Moi j'ai pas fait de main courante parce que je savais pas que c'est plus tard que je savais que j'ai su, je savais pas que il y a une main courante. Je savais pas ce que c'est une main courante. Et aujourd'hui, je veux savoir est-ce qu'il peut me faire des problèmes en fait. Est-ce que ça peut me poser des...
Alors monsieur le commandant de la police, j'aime bien. Qu'est-ce que vous répondez Jean-Pierre Colombiès?
Quoi dit, parce que c'est pas marrant la situation.
Non, 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 elle est pas marrante, mais dites, non. Qu'est-ce que vous répondez
alors,
à Sofiane?
Il est possible, je dis bien possible.
On a beaucoup d'appels hein. Voilà. Il faut aller court s'il vous plaît, je vous demanderai. Et vous Jean-Pierre Colombiès, et pour Sofiane. C'est on a Sonia Doron, on a Gérard de Moulin. On a beaucoup d'appels.
Je vais le rassurer quand même. Alors lui il peut faire, alors effectivement la partie adverse, on va dire que c'est la partie adverse. Peut décréter qu'elle va déposer plainte pour refus de constat, d'établir un constat, mais votre chance, c'est que une patrouille de police est venue. Et vous pouvez, si vous êtes convoqué, pour faire simple, vous référez-vous à cette intervention. Parce que cette intervention a nécessairement fait l'objet d'une main courante. Les policiers, eux-mêmes, rédigent des mains courantes d'intervention lorsqu'ils se déplacent et ils relatent ce genre de choses. C'est normalement, si les choses ont été faites convenablement, je dis bien convenablement, c'est apparu quelque part. De toute façon, il y a une trace de leur intervention. Donc même si vous êtes convoqué, alors je vous invite maintenant, de manière préventive, à vous-même faire une main courante en expliquant ce que je viens de vous dire. Et si on vient vous demander de vous expliquer de manière plus précise sur ces faits, reportez-vous, évoquez la venue des services de police,
voilà,
de la patrouille de police, et on retrouvera la trace de leur intervention.
C'est très clair, Sofiane, hein?
D'accord, ouais, mais c'est voilà. 4 mois. Donc je peux faire une main courante, même 2 mois.
Ouais. Moi, je vous invite à le faire.
Il vous invite à le faire, le commandant de la police. Il vous invite à le faire. Voilà.
Ok, ça marche. Bah,
c'est merci Sofiane de Courbevoie. Merci. Le Quoi de Neuf avec un peu de retard, c'est parti. Et je reçois.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et je reçois derrière Sonia de Rouen, Gérard de Moulin, Hakim de Bourges et tous les autres au 01 53 48 3000. Bonjour docteur Majid Séhoussine. Comment ça va mon cher docteur?
Bonjour mon cher Adil, tout va très
chef
bien,
de service à l'hôpital Sainte-Camille, quelle classe, mais également aussi aux Invalides chez les militaires et au SAMU, quelle classe, double classe, j'adore, moi je kiffe. Mon cher docteur, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur comme chaque mercredi, et bien cette fois à la Chine et au Qatar, nous vous écoutons.
Bah écoutez mon cher Adil, on le dira encore une fois, le Covid aura bien bousculé le monde, ne voilà-t-il pas que c'est désormais la Chine de Xi Jinping qui vient d'être secouée? Elle, dont on croyait qu'elle était parfaitement soumise, uniquement occupée à conquérir des marchés et le monde, sage sous la férule de l'actuel empereur du milieu, on avait bien vu le mouvement des parapluies, mais ça se passait à Hong Kong, ce qui est forcément un peu moins étonnant, étant donné la mauvaise influence qui a été transférée par les Britanniques pendant la colonisation. Il y avait bien eu aussi ces gens qu'on avait vus sur les réseaux sociaux, à qui on rasait le crâne quand ils avaient voulu échapper au confinement qu'on leur imposait dans leur appartement. Appartement dont on cadenasse les portes hein, pour que les gens n'en sortent pas. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est du Tiananmen, tant les manifestations sont importantes. D'ailleurs, je me demande ce qu'attend Beurre FM pour vous envoyer comme reporter à Pékin et à Shanghai. Mais faites tout de même attention à Dil. J'ai vu comment les Chinois répriment, et je dois dire qu'ils ne font pas dans le ravioli à la crevette. La répression, Madin Chen.
Il est complètement dingue, hein.
Il est bien, c'est bien.
Il est bien, hein. Ça vous plaît, ça, Jean-Pierre?
Ah, ça me plaît beaucoup.
Ça vous plaît. Le l'ancien commandant de police, ça y est, il est séduit par vous, docteur.
Ah, écoutez, tant qu'il n'a pas de menottes, ça va.
Il y a de la rhétorique, hein.
Il y en a qui ont fait un drôle d'usage des menottes. C'est un autre débat.
Vois. Allez-y, monsieur docteur.
Je disais donc, la répression Made in China, c'est de la haute couture. Et j'ai une pensée émue, et je vais vous rappeler un souvenir de jeunesse, mon cher Adil, pour cet étudiant qui, en 1989, tentait d'arrêter un char en se mettant devant lui et réussissant à le dévier. Tout le monde se souvient de cette image. Après, en ce qui concerne les reportages, je sais que vous étiez en lice pour couvrir la Coupe du Monde au Qatar, mais que malheureusement, on a dû refuser de vous l'accès à votre personne au Qatar quand vous avez proposé d'y aller avec votre costume arc-en-ciel que vous mettez tous les vendredis.
C'est ça, oui, bien
le
sûr.
Soir, avant d'aller en soirée dans le marais.
Ah, il est fou. Quelle réputation, bah dis donc. Hein. Qu'est-ce qui me
d'ailleurs, on vous a bien reconnu sur ces images sur le match où vous défiliez en petite tenue.
Surtout que j'y étais pas, surtout.
Avec un drapeau LGBT.
Surtout que j'y étais pas, c'est ça le malheur.
Qui se justifie à tort. Je disais donc, le Qatari est tolérant, mais là, il a ses limites. Il ne lui faut pas le fâcher, comme moi vous le savez, il investit et vend du gaz. Déjà qu'on lui impose demain un match arbitré par des femmes, dont une Française, il faut pas pousser quand même. Après tout, moi je me mets à sa place au Qatari. Il a le droit lui aussi d'appliquer la théorie du grand remplacement et de refuser un génocide culturel qui n'aurait d'égal que celui que l'immigration de masse impose à la France. Le Qatari moyen veut continuer de manger des dattes et de boire du lait de chamelle et n'a pas envie qu'on lui impose la quenelle de Lyon, pas de Dieudonné, avec du Beaujolais ou de la Budweiser. Franchement, avec tous ces embêtements, on se demande pourquoi ils ont tant voulu organiser cette Coupe du Monde. Et j'ai peur pour l'Arabie Saoudite, qui s'est portée candidate à l'organisation des Jeux d'hiver et devrait bien réfléchir. Parce que le concours libre de patins à glace à Jeddah, ça risque quand même d'être compliqué à organiser, non seulement à cause des températures, mais surtout à cause de la police religieuse qui n'est pas vraiment entraîné à supporter la vue de jeunes femmes en petites jupettes.
C'est vrai.
En tout cas, il y a une nouvelle rassurante. Les peuples sont de retour et ils ne se laissent pas faire, que ce soit en Chine, en Iran, en Algérie, dans le monde arabe. Et ils ne sont pas prêts à avaler n'importe quelle pilule, même si pour cela, il faut payer le prix fort.
Bravo.
Et cela, dans cette France qui sécrète de la faiblesse, c'est une belle leçon que nous devrions méditer.
Ça vous plaît, ça, hein, Jean-Pierre ouais, Colombier?
Si je peux rajouter, je peux intervenir ou pas?
Oui, attends, les yeux.
Oui, quand vous évoquez le mouvement LGBT qui s'exprime comme il le peut, dans un contexte particulièrement compliqué, j'en reviens à ce que disait Emmanuel Macron, comme quoi le sport ne doit pas être politique. J'aimerais juste lui rappeler à ce président que lorsque Hitler a pris le pouvoir en Allemagne nazie, les premiers pensionnaires, parmi les premiers pensionnaires des camps de concentration, il y avait eu dans l'ordre d'apparition les communistes, bien évidemment, en grand nombre, mais aussi les homosexuels, qui étaient marqués du triangle rose dans les camps de concentration et qui ont précédé aussi les prêtres, pour d'autres raisons. Donc, faut pas avoir la mémoire courte. Et effectivement, la répression qui s'abat sur les homosexuels est préférée.
Vous avez raison de le rappeler.
D'autres contraintes et d'autres crimes.
Absolument. Voilà, docteur. Mais vous savez tout ce que vous racontez sur moi, là, les auditeurs, ils gobent, hein, au premier degré. Hein. On ne capte pas le second degré. Faut faire attention, parce que j'ai des auditeurs qui m'appellent après. C'est vrai ce qu'il a dit sur vous. Mais non, mais c'est du second degré, chers amis.
J'aimerais bien juste que vous me disiez où est-ce que vous avez procuré votre costume.
Mais moi, je
ne
me suis rien procuré, rien du tout, moi.
Je voudrais le même.
Moi, je suis un homme discret qui fait sa radio, sa petite télé, et puis voilà, je rentre, je sors. Voilà, c'est vrai en plus, je me rends rarement dans les événements.
Adil, ouais. C'est la frontière de votre vie privée, on ne la franchira jamais.
Eh non, ça c'est vrai. Allez, vie privée, vie publique. Docteur Majid Seoussine, merci encore. Bravo pour votre billet d'humeur. Quelle classe internationale. À mercredi prochain, sans faute.
Avec joie.
Je vais juste accueillir Gérard de Moulins. Bon, je vais juste vous saluer. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir. Alors, je suis en admiration de voir l'ambiance du studio. Et du papier du docteur, là.
Ah, le docteur. Le docteur, c'est quelque chose.
C'est quelque un docteur journaliste. Il a bien tenté ça, alors. Hein.
Ah, ça, c'est bon. Hein. Gérard, ne quittez pas, restez avec nous. On marque juste une petite pause. Et on se retrouve avec vous, et notamment Hakim de Bourges. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h45, si vous venez de le retrouver, sachez-le, le standard est là. Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de la police, mais également le porte-parole des policiers indépendants de France. Vous êtes avec nous en direct au 01 53 48 3000 avant de retrouver le face-à-face. Nous allons retrouver Gérard qui nous appelle du 03 Moulins. Bon, rebonsoir Gérard.
Bonsoir, mais alors vous avez l'ambiance alors sur l'antenne.
Ça, vous l'avez vu, mais on essaye de faire vivre, hein. On essaye de vous faire vivre justement nous aussi, pour vous accompagner en fin de soirée comme ça, en début de soirée. Quelle est votre question pour Jean-Pierre Colombiès?
Attends, c'est une question qui n'a rien à voir. Je me tartine une tartine de beurre tous les matins en vous écoutant.
Ah, ça c'est bon ça. Tartine de beurre en écoutant Beurre FM, c'est bien, c'est bon. Avec Kim.
Beurre FM, tartine de beurre.
Avec Kim.
Facile.
C'est une question technique.
Voilà, vous avez bien raison. C'est bien. Quelle est votre question?
Alors, la question, c'est que, avec mon portable que j'ai à la voix, je n'arrive pas à vous avoir. Comment il faut faire?
J'ai pas compris.
Non, moi non plus.
Non, voilà, j'annonce à la voix. J'ai un téléphone qu'on commande à la voix. Je suis non-voyant. Je dis Beurre FM et j'arrive pas à vous avoir.
Ah, vous arrivez. Ah oui, d'accord. Mais quel est le rapport avec la police?
Rien du tout.
Vous êtes bon? Vous êtes bon, vous, Gérard? Vous êtes bon? Vous êtes bon?
Il arrive à être à l'antenne sans avoir de questions. Bravo.
C'est bien, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bah écoutez, restez branchés, Beurre FM.
Oui.
Mais je sais pas quoi vous répondre. Je suis en bas.
Bonne soirée. Moi, je pense que c'est
une bonne soirée. Bonne soirée, mon cher Gérard, et prenez soin de vous. Restez fidèles. Hakim de Bourges. Hakim, bonsoir.
Oui, bonsoir Adil. Bonsoir à votre invité.
Bienvenue. On vous écoute pour la question. Pour Jean-Pierre Colombès, vous écoute.
Relativement simple. Je voulais savoir si jamais il y a quand une personne va faire justement pas un dépôt de plainte, mais une main courante. Est-ce que la personne contre qui on fait la main courante est au courant et convoquée au commissariat ou autre?
Non. Jean-Pierre Colombiès.
La réponse est claire, non. De toute façon, quand vous déposez une main courante, vous êtes maître du jeu si vous décidez. Alors, parfois, les services de police posent la question si vous souhaitez qu'il y ait une convocation consécutive à cette main courante pour tenter un arbitrage à l'amiable, une discussion qui peut d'ailleurs faire l'objet aussi d'une main courante. Mais si vous, lorsque vous déposez cette main courante, vous dites non, je veux juste laisser une trace et je ne tiens pas à ce que ni la personne soit avisée ni qu'elle soit convoquée, on en restera là.
Voilà, Hakim.
Donc, ça veut dire qu'il peut très bien y avoir des mains courantes contre nous sans qu'on soit au courant pendant toute notre existence. Quoi.
Tout à fait.
D'accord, ok.
C'est clair pour vous, Hakim?
Très clair, je vous remercie.
Eh bien, écoutez, restez branchés Beurre FM et les informer.
Bonne soirée. Hein.
Bonne soirée, c'est parti pour le face-à-face.
Les informer
Le face-à-face.
Il faut bien qu'on débat, parce que sinon, vous en avez pour la soirée, hein, question-réponse. Hein. Jean-Pierre Colombiès, je vous garde. Qu'est-ce que quoi ?
Rigolez, vous êtes bon, vous.
Vous êtes bon. Bah, attendez, je m'attendais à une question autour de la... Ah, police, voilà, conseil, on est là pour ça, quoi. Bon, en fait, Jean-Pierre Colombier, c'est là pour répondre, vous aiguillez,
même
quoi.
Même pour les problèmes de téléphonie, si nécessaire.
Jean-Pierre, je vous garde. Gamal Abina, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, comme d'habitude.
Vous êtes en forme, vous, hein ?
Toujours.
Il est arrivé avec le grand sourire à la
patate. En plus, j'ai une petite parole sympathique pour les Tunisiens, félicitations. Ils viennent de battre la France 1-0. Et l'arbitrage est exceptionnel. Pour l'instant, pas de triche.
Pas de triche, hein. Rudy Kazi, qu'est-ce que vous faites, Rudy ? Qu'est-ce que vous écrivez là ?
Il s'ennuie,
vous nous le dites. Hein.
Il y a des personnes qui disent des choses tellement intéressantes autour de la table que je suis venu pour les écouter, donc je prends des notes.
Ah bon ?
Pas le genre de Rudy, ça.
Non, d'accord.
Non, mais.
Qu'est-ce qui vous fâche là ?
Non, rien du tout. Ah bon ? Par contre, ouais, dommage que la France ait perdu ce match.
Ouais.
Quoique c'était bien d'offrir une victoire à nos habitués.
Non, pas offrir. Ils ont arraché la victoire.
Ouais,
arrêtez de délirer.
C'est une façon de voir les choses. Moi, je trouve bien qu'on ait offert une victoire à nos amis tunisiens. Voilà, ouais. Ça leur met
ils ont gagné.
Pour supporter cette élimination.
Ils ont fait un
beau match et la France qui tournait à 9 titulaires, 9 remplaçants sur 11 leur a concédé une belle victoire.
Oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais.
Le beau moqueur.
Drin, drin, drin.
Ouais, mauvais.
Surtout ce but refusé à la fin pour une position d'enjeu très douteuse.
Très douteuse.
Gamal disait qu'il n'y avait pas de cadeau. Moi, je pense qu'il y a un petit cadeau de l'arbitrage.
Il n'y a aucun cadeau, non.
Mais en l'occurrence, je pense que ça dérange à peine vu que la France était déjà qualifiée. Mais...
Moi, je pense qu'il y a des questions à se poser sur la qualité de l'équipe de France aujourd'hui, même si c'est pas les titulaires. Mais bon,
on fait un spécial.
C'est des questions qu'on se pose trop souvent, malheureusement.
Messieurs, premier sujet qui a retenu notre attention, vous savez, c'est le port du masque. De plus en plus en question, en débat notamment, avec Elisabeth Borne, la première ministre qui appelle à porter le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans les transports en commun. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que les cas Covid sont en forte augmentation. On parle, non, arrêtez de faire ça, je ne suis pas là pour créer la psychose, mais voilà, c'est le retour, c'est la période hivernale, c'est normal, la grippe qui se mêle, les bronchites, les angines, les rhumes, etc., etc. Jean-Pierre Colombiès. Bon, elle a raison la première ministre, non ?
Là, vous cherchez à nous énerver, dit ou pas ?
Non, énervez-vous si vous avez envie de vous énerver, il n'y a pas de problème.
Si je m'énerve, je vais vous dire pourquoi. Déjà, on va faire très clair que ceux qui doivent se protéger et ont une situation de santé fragile se masquent, très bien pour eux. Mais il n'est pas question une seconde, de mon point de vue, d'obliger toute la population à se masquer. Ça suffit. Je vous dis, je suis intimement convaincu.
On pose la question dans les transports en commun. Est-ce que le masque est obligatoire, redevient obligatoire ?
Mais pourquoi ? On va retomber dans la psychose. Quand il était obligatoire, le virus circulait tout autant. Maintenant, ça suffit. Ça devient un cirque, effectivement. C'est un lapsus révélateur.
Ouais.
Le cirque Covid est en train d'être relancé parce qu'ils ont besoin, une fois de plus, de maintenir une pression anxiogène sur la population. Je l'ai dit, je le répète, et je reste fidèle à moi-même, on va dire, quelque part. Maintenant, il faut savoir une chose intéressante, quand même. Ouais. C'est que les personnes les plus fragiles sont les moins vaccinées. Ouais. Alors, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on va encore pénaliser 99% de la population parce que certains considèrent que c'est le reste du monde qui doit les protéger et que eux-mêmes ne doivent pas se protéger. Bon. Vous savez, je vais terminer là-dessus.
Je suis
intimement convaincu que dans cette période anxiogène où nous avons la guerre, où maintenant on va nous faire croire que le Covid revient, qui sera meurtrier. Voilà, la guerre en Ukraine, la Chine, effectivement tout ça, je suis intimement convaincu qu'il y a sur la table de chevet deux ouvrages chez Emmanuel Macron. C'est 1984 d'Orwell et Du mensonge à la violence d'Anna Arendt.
Clochette. Moi, je dirais plutôt que dans sa bibliothèque, il y a pas mal de Machiavel. Ça, il l'a déjà dit. Non,
vous savez à quoi il s'est comparé. Les deux mots français qu'il retient. Un saxifrage et un deuxième mot, coriscant. Coriscant. Voilà, coriscant. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire ?
Absolument pas. Ouais. Moi, je parle italien.
Coriscant, c'est être brillant, très brillant. Et saxifrage, c'est une plante qui pousse à travers les pierres. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, quand on décrète que ces deux mots-là sont les deux mots de la langue française que vous préférez ? C'est simplement que vous vous qualifiez vous-même. En tant que plante résistante.
Mais il a sérieusement dit ça ?
Il a sérieusement dit ça lors du sommet de la francophonie que va accueillir la France. Et il a répondu ça à une journaliste africaine.
Là, à Djerba, la semaine dernière ?
Oui, elle me pardonnera si j'ai pas retenu son nom, parce que ce qui m'a frappé, c'est la façon dont il a dit ça, parce que c'est deux mots que vous n'employez jamais.
Moi, j'ai deux mots que j'emploie régulièrement, c'est hibiscus, synallagmatique. Voilà, ça n'a aucun intérêt.
C'est pas mal.
C'est du droit à une plante,
c'est
mais je vois pas l'intérêt.
C'est bien aussi. Non, non, mais
c'est bon, hein, l'hibiscus.
Ces deux mots-là, mais je les ignorais totalement, comme quasiment 99% des gens. Mais c'était évident qu'il parlait de lui une fois de plus.
J'ai beaucoup bu la semaine
dernière. Deux mots signifiant brillance, être brillant, et tenace.
Et de la pierre, quoi.
Voilà. Alors, Gamal Abina. Bon. Alors, ça fait débat, hein.
Bon, bah, évidemment. Je traduis quand même hibiscus. Hein. C'est une plante et synagmatique, c'est un accord bilatéral. Mmh. Ça, c'est juste pour se la raconter un peu quand on fait du droit. Mais au-delà de ça, non, je pense qu'effectivement, il y a un problème qui se pose aujourd'hui. C'est qu'il y a une situation extrêmement anxiogène qui est liée non pas à la guerre en Ukraine directement, mais à l'économie qui s'égrade et une inflation qui est galopante, dont on annonce qu'elle sera à 6%. Mais on est largement au-dessus. Il suffit de voir le panier moyen de la ménagère. Maintenant, pour revenir à la question des masques. Je pense effectivement, et là, je rejoindrai Jean-Pierre, qui je trouve parfois exagère un peu, mais là, pour le coup, il a raison. Les gens qui sont en situation de fragilité doivent se protéger en se vaccinant. Ça ne se négocie pas. Les gens qui ont ce qu'on appelle les comorbidités ou ce qui ont simplement des détresses immunitaires, hein, ce qu'on appelle les aplasies, donc les gens qui ont une immunité basse, doivent se protéger. Alors évidemment, malheureusement, ceux qui sont, par exemple, qui ont un cancer du sang ne peuvent rien faire. Vous pouvez les piquer 20 fois par jour avec le vaccin. De toute façon, s'ils ont des globules blancs très bas, leurs défenses sont basses, donc ils risquent la mort. Et cela, on doit les protéger en les isolant, tout simplement. Et la question de savoir si on doit revenir au masque, j'ai envie de dire que j'ai entendu plusieurs et lu beaucoup d'articles à ce sujet-là. Ce qui semble vraiment chagriner le secteur pharmaceutique, c'est qu'ils ont des stocks importants de vaccins contre la grippe, contre le Covid, tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils essaient de liquider leurs stocks. C'est un peu le sentiment que ça me donne. Parce qu'il n'y a pas du tout de détresse. Les hôpitaux sont en difficulté chronique, mais ça n'est pas lié au Covid.
Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas pour la
même raison. Absolument. Il y a une petite augmentation, une suraugmentation, on dira,
on parle de beaucoup de cas quand même.
10%. Non, les cas, le nombre de cas,
ça n'est pas. Mais on parle d'un relâchement dans l'autre côté.
Les cas, c'est pas des malades.
Non, c'est plus que ça. C'est que le cas de maladie Covid, moi, je l'ai eu il y a une seconde fois, c'est 3 jours. Ce qui se passe, c'est qu'il faut faire une distinction entre les morts, là où il y a une vraie détresse, les réanimations, où là il n'y a pas un pic, c'est pas vrai, il n'existe pas, on peut en parler d'ailleurs avec le docteur qui va en parler, et puis les malades. Les malades Covid, c'est devenu une maladie normale. C'est une maladie qui va circuler normalement comme une pandémie habituelle, comme la grippe, comme n'importe quel type de maladie, c'est une variante de la grippe. Donc il faut se mettre dans la tête qu'il y aura des gens qui vont l'attraper, c'est normal, il y aura une augmentation en hiver, c'est normal puisqu'elle est saisonnière, mais pour autant on n'est pas dans cette vague monstrueuse, il parle de 8, 9 vagues, c'est ridicule. On n'est pas dans cette première et seconde vague.
La vague, on parle d'une
vague. Oui, ça c'est vrai, il met des vagues à chaque fois qu'il y a un mouvement saisonnier, c'est ridicule. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans cette catastrophique situation qu'on a connue à la première et seconde vague qui ont été les pires.
Alors Rudy Casi, tiens.
Moi, pour ne rien changer, je trouve que la question de remettre le masque n'est pas, enfin, obligatoire, n'est pas une bonne idée, dans la mesure où on n'est pas sur les mêmes chiffres, ne serait-ce que en 2021, on n'est pas absolument pas sur les mêmes chiffres que 2022, et que cette recrudescence, en tout cas de cas qui ne sont pas des formes développées graves de la maladie, ce sont des cas, ça veut dire en fait que c'est des gens qui ont été dépistés, qui savent qu'ils sont positifs du Covid-19, mais qui n'en font pas forcément une grosse infection, une grosse maladie et qui n'engorge absolument pas les services médicaux dans les hôpitaux. Je pense qu'il est un peu précipité d'aller sur une obligation de porter le masque. Par contre, il y a des vrais sujets en dehors de ça. Je veux dire, à la limite, si les gens veulent porter des masques, qu'ils en portent à nouveau. Hier, je suis allé dans une pharmacie, on m'a demandé de porter le masque, je l'ai porté. Si je pense que je dois le porter dans les transports en commun, je vais le faire de moi-même. Aujourd'hui, on est arrivé à une telle connaissance du virus qu'à un moment donné, on se connaît aussi physiquement.
C'est-à-dire, oui, il y a un relâchement quand même, reconnaissez-le quand même.
Non, c'est pas un relâchement.
On l'a presque oublié, le Covid, qu'il existait encore.
Non, c'est pas un relâchement. Les gens se connaissent mieux. Les gens se connaissent mieux, les gens connaissent mieux le virus, et ils s'adaptent en fonction de leurs besoins. S'ils sont... Moi, je vois toujours des gens mettre le masque, avant qu'on en parle, je vois toujours des gens mettre le masque dans les transports. Parfois, moi aussi, ça m'arrive d'en mettre un. Donc, je le fais en fonction de comment je ressens la situation. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on est quasiment en période hivernale. Bon, c'est le 21 décembre, l'hiver, effectivement. Donc, on arrive à une période où il y a une recrudescence de tous ces virus, qui sont les virus hivernaux. Ouais. Donc, j'ai entendu... je ne sais plus quel médecin qui en parlait à la télé, comme quoi il y a la broncholite qui arrive, je sais bien, je suis un peu touché par la broncholite, et mes enfants aussi, donc du coup...
Ça tousse, ça tousse.
Voilà, et donc il y a cette concomitance
aussi,
de virus qui arrive en même temps, mais parce que on arrive dans la période hivernale, ce qui est tout à fait normal. Pour moi, véritablement, le vrai sujet, c'est l'inflation, mais par contre, il y a aussi des sujets qui sont intéressants à discuter, c'est par rapport au Covid-19, qu'est-ce qu'on fait de tous ces personnels soignants
qu'on interdit
de revenir, alors que d'autres pays
soignants
qui
non
les
vaccinés,
avaient...
vous voulez dire
non vaccinés, pardon, voilà. J'aurais dû le préciser, non vaccinés, qu'on interdit de revenir, ou du moins qu'on garde toujours à la marge de leur emploi, alors que dans d'autres pays, effectivement, ils avaient été interdits
La Grèce,
Italie, en Espagne aussi, me semble-t-il, ils ont tous été réintégrés, sauf en France. Moi, je pense que c'est pas un sujet sur lequel il faut qu'on fasse de la politique, ça a été un sujet médical, peut-être aussi politique, disons-le quand même. Et une fois qu'on est sorti de cette zone rouge, il ne faut pas que ça reste un problème politique, là où ce n'est plus un problème médical. Spécialement dans des zones comme, par exemple, aux Antilles, où, effectivement, il y a peut-être une espèce de petite sanction, parce que là-bas, les gens étaient plutôt réfractaires au virus, au vaccin,
pardon, etc. Jean-Pierre. C'est la vengeance du maître. Voilà. Bon, mais il y a autre chose.
Ce qui est maladroit pour une zone comme les Antilles, qui connaissent déjà d'autres problèmes, comme les plis, la vichère.
C'est explosif dans ces zones-là.
Il faut reconsidérer les choses, je
pense. Tout à fait. Non, mais on rajoute de la crispation là où il y en a déjà. Mmh. Mais il y a autre chose quand même. Il y a une hypocrisie absolue dans ce débat sur la santé publique, de manière très globale. Effectivement, il y a des problèmes d'accueil, de personnel dans les hôpitaux. Mmh. On va dire globalement, ça va très mal dans le système hospitalier. Et la panique de ce gouvernement, c'est quand encore une vague, pas seulement de Covid, mais de tout ce qui est médical classique et qui fait qu'à un moment donné, il y a un engorgement qu'on aurait beaucoup de mal à gérer. Mais même une fois qu'on a dit ça, vous avez vu du changement, vous, dans les publicités à la télévision sur l'alimentation? Moi, j'en ai vu aucun. Je regardais hier soir une émission de divertissement, ça change un peu les idées. À chaque coupure pub, j'avais la pub pour quoi? McDonald's, KFC. C'est-à-dire des machines à créer de l'obésité, les machines à créer des futures victimes de quelques virus que ce soit. Parce que dès que vous avez une population obèse, de malbouffe, voilà, cardiovasculaire, diabétique, problème respiratoire,
tout simplement,
respiratoire, si vous avez un virus là-dessus, et notamment un Covid puissant, pas celui qui est là, parce qu'il faut arrêter, celui-là, c'est pas un virus. Là,
le
virus.
Il affaiblit, c'est clair, c'est plus la même chose.
Il affaiblit, point barre. C'est moins sérieux qu'une grippe, je pense.
Oui, largement.
Hein, mais quand vous avez une population qui est nourrie, c'est le cas de le dire, avec une telle malbouffe, ben vous la fragilisez, vous la mettez en danger.
Gamal Abidine.
Pas une seule contre-publicité sur le sujet.
Ce sera important qu'on rebondisse là-dessus sur l'inflation.
Une chose, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 10% des Français qui ne sont pas vaccinés. Pour des raisons légitimes ou pas, on ne rentre pas là-dedans, mais ils ne sont pas vaccinés, ils sont donc exposés un peu plus que les autres. Ensuite, on annonce 88 morts. Donc, en règle générale, c'est plutôt des personnes très âgées qui avaient des comorbidités. Donc, c'est toujours un peu le même scénario.
Peut-être pas mort de ça directement, du reste.
Pas forcément, mais bon, j'accepte les chiffres-là.
C'est vrai.
Ça correspond en gros aux 8000 morts par an de la grippe. Ça, c'est une réalité qu'on retrouve aujourd'hui. Par contre, ce qui me rassure quelque part, ou ce qui devrait nous rassurer, c'est que ce déport d'attention sur le Covid qui avait été abandonné alors que la maladie restait, j'ai vu les courbes de croissance, on était plus ou moins dans la même course. Il n'y a pas eu de pic, hein, c'est pas monté d'un coup, parce que l'hiver est doux depuis le début. Ce qui se passe, c'est que ça rassure parce qu'on se rend bien compte que, parce qu'on parle du Covid, la question ukrainienne commence à être mise en périphérie, parce que la question ukrainienne va être solutionnée bientôt. Zelensky est obligé de négocier par les Américains, on ne le dit pas. Donc ce rapport où il y a une bascule comme par hasard, on s'intéresse à un autre sujet, je vous montre le doigt, il y a les lunettes, regardez, vous ne la voyez pas parce qu'on regarde le doigt. Aujourd'hui, la question du Covid est juste un cache-sexe difficile à expliquer pour le grand public, mais en réalité qui est un divertissement pour ne pas parler du vrai sujet.
Sachant que quand la guerre en Ukraine avait débuté, enfin la guerre, le on va dire la généralisation de la guerre, puisqu'elle avait commencé dans le Donbass depuis quelques années, voilà. Tout d'un coup, on n'a plus parlé du Covid-19. Malheureusement, ça veut aussi atrophier, on va dire, le début de campagne présidentielle, notamment du président de la République. Et là, effectivement, on parle un peu moins de l'Ukraine. Et le Covid-19 revient majoritairement. Mais par contre, ce qui est vrai par rapport aux personnes âgées qui sont touchées par le Covid, souvent elles ont d'autres maladies à côté.
Oui.
Et le Covid-19 vient accélérer malheureusement la dégénérescence de la généralisation de la maladie malheureusement. Et à la fin, on ne sait pas trop de quoi la personne est morte. Moi, mon grand-père, on en a souvent parlé un petit peu dans d'autres chaînes l'année dernière, qui est décédé l'année dernière. Il avait un cancer de la prostate. Finalement, on ne sait pas si c'est il est décédé de la prostate ou de l'affaiblissement que lui avait causé le Covid-19. Donc c'est aussi un sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans les chiffres de décès dus à la Covid-19, alors que parfois il y a des maladies, une aggravation, parfois sur des comorbidités, parfois sur d'autres problèmes de santé.
On
ne
parle pas de l'inflation.
Il est 19h03. Il est 19h03. Autre sujet aussi qui retient toute l'attention, c'est les tensions internationales, mais également aussi des enjeux qui sont à venir entre les États-Unis et la France. Deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron qui s'est rendu en ce moment même à Washington. Il a rencontré Joe Biden, chef des États-Unis. Alors, justement, quel programme, quel enjeu, que peut-on attendre de cette visite de seconde visite d'État d'ailleurs d'Emmanuel Macron? Va-t-il revenir avec une valise plein de contrats, puisqu'on parle.
C'est le contraire.
Qu'est-ce
qu'il est drôle?
C'est plutôt nous qui faisons des.
Je pose des questions.
C'est nous qui faisons des concessions.
Pierre Colombiès.
Non, c'est le. Mais non, mais enfin. Je vais essayer de ne pas être trop méchant.
En tout cas, il se dit que c'est un voyage crucial.
Ah oui, c'est clair. Oui. Mais pas pour ces raisons-là.
Mais voilà, non, mais.
Soyons, c'est l'Ukraine.
Non, mais soyons sérieux. Mais non.
Même
mais
pas.
Non, la France n'a rien à voir dans. La France ne pèsera nullement. Le gamin l'a très bien dit. Ne pèsera nullement dans la résolution du conflit russo-ukrainien. N'en déplaise au candidat au prix Nobel de la paix, notre cher président qui démultiplie ses...
Prix Nobel de la paix maintenant.
Ouais, ben c'est ce qu'il voudrait. En
tout cas. Ah oui, c'est ce qu'il voudrait.
Non, mais on va être sérieux deux secondes. Emmanuel Macron ne pèse rien, mais malheureusement, c'est parce que la France ne pèse plus rien dans le concert des nations et dans les négociations, quelles qu'elles soient au niveau international. On est trop dans la dépendance, justement, des États-Unis. Mais Macron l'a dit dès le départ, qu'il était, je veux dire, un des alliés, un des piliers de cette relation franco-américaine. Voilà. Donc il va chercher les instructions et on n'aura plus qu'à les accepter. Malheureusement, notre pays est en détresse financière, on est en déficit chronique, on a des crises dans tous les secteurs, hôpitaux, sécurité, justice, enseignants,
export,
partout ça craque, commercialement parlant.
Absolument.
On n'existe plus, on a tout perdu puisqu'on a tout délocalisé et que les relocalisations dont on nous a chanté les gloires, ce ne sera pas avant 10-15 ans si tant est que ça se fasse. Et de toute façon, il va chercher quoi? Il va chercher du gaz.
Non, je pense que c'est
autre chose.
Avant moi, je pense que
c'est autre
chose. Non, la problématique, alors il faut savoir que le sous-jacent, c'est un truc très important parce que cette guerre en Ukraine n'est pas une guerre simplement d'un territoire que les Russes voudraient reprendre avec une Ukraine qu'on voudrait défendre qui serait soi-disant occidentale. Ça, c'est du bidon, ça. La guerre en Ukraine, c'est d'abord une guerre énergétique et c'est une guerre de l'appropriation du leadership énergétique européen. L'Europe est totalement dépendante des énergies qui était au départ carbone, donc les énergies russes, 30% du marché. Elle dépend des énergies nord-africaines, elle dépend des énergies moyen-orientales. C'est ce que l'Europe supporte. Elle est un importateur net, à part un peu de charbon en Allemagne et en Angleterre, mais globalement, il n'y a pas de pétrole, de gaz, rien du tout. Et ce qui se passe, c'est que les Américains ont joué un coup très très fin, ils ont poussé effectivement la guerre au maximum, alors que les Européens ont paraffé les accords de Minsk, qui empêchaient la guerre, je le rappelle quand même, c'est quand même les Européens, c'est l'OSCE, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis ont poussé à fond leur pion Zelensky, qui est prêt à faire une guerre mondiale, lui, faut se rappeler quand même de ce qu'il a fait. Et ce qui se passe, c'est que la question qui se pose, si Macron va aux États-Unis, c'est pas pour le gaz. Le gaz coûte trop cher, ça coûte 10 fois trop cher. Ils savent qu'ils vont revenir avec les Russes. Il va aux États-Unis pour leur dire, arrêtez votre politique de, c'est plus le brain drain, mais le brain company. Ils sont en train de capter les compagnies européennes en disant, nous sommes pas chers, on a du gaz de schiste, du pétrole de schiste, venez vous installer chez nous, c'est gratuit, il y a franco de port. Il n'y a rien, enfin, c'est les zones franches, j'exagère. Des zones franches, venez chez nous. Et les Allemands ne s'y sont pas trompés, c'est pourquoi le premier ministre, enfin, le chancelier allemand fait le tour des capitales, parce qu'il commence à s'inquiéter de voir ses entreprises se barrer aux États-Unis. Aujourd'hui, la guerre économique, c'est les États-Unis contre la Chine, qui sera le prochain atelier mondial. Les États-Unis veulent capter. Mais là, ils veulent vraiment en devenir. Ils veulent récupérer toutes les compagnies occidentales qui vont ne pas avoir d'énergie parce qu'elles sont en difficulté, en disant chez nous, c'est pas cher.
Donc l'enjeu pour Macron, c'est
l'enjeu, c'est d'empêcher les États-Unis, et c'est pour ça qu'ils sont concertés avec les Allemands, d'empêcher les États-Unis de récupérer les compagnies. Et vous allez voir que sous peu, la Commission européenne, von der Leyen en a parlé, commence à s'inquiéter de ces manœuvres américaines. Et là, ils en ont marre parce qu'effectivement, le coup de grâce qu'on porte aux Européens, c'est pas le fait que tout coûte plus cher, c'est le fait qu'il n'y ait plus de compagnies qui vont rester en Europe. Je parle des industries allemandes en l'occurrence et tous les pays périphériques qui vont aux États-Unis.
Ça, c'est préoccupant. Redi Kazi.
Ça fait un moment que les États-Unis veulent faire main basse sur les industries françaises. Rappelez-vous le projet TAFTA, etc., ces trucs-là, qui faisaient main basse parfois sur des produits estampillés France, quoi, comme le vin, le Bordeaux, etc., ces appellations d'origine contrôlée que les Américains voulaient récupérer.
Ou Alstom, simplement, Alstom, ils ont acheté.
Alors Alstom, bien sûr, certains pans de Alcatel aussi, que General Electric avait récupéré, évidemment. Donc, c'est, c'est surtout ça le problème, parce que les États-Unis veulent retrouver une hégémonie sur le plan économique et damer le pion. Alors effectivement, à la Chine, c'est... Mais d'une certaine manière, on est sur l'économie, mais on est aussi sur... Voilà, le vieux poncif d'une civilisation triomphante, quoi. Mais aujourd'hui, une civilisation triomphante, elle ne l'est plus par la guerre. Elle l'est par une hégémonie économique, etc. Donc, en même temps, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je pense que l'aspect civilisationnel pour la Russie ou pour les États-Unis, elle existe dans la question économique, ou bien dans la question économique, la question civilisationnelle existe aussi. C'est une forme d'hégémonie.
L'impérialisme.
Voilà, c'est. Mais. Moi, je pense qu'effectivement, bon, après, il y a le discours officiel. Mmh. Emmanuel Macron y va, soi-disant, pour obtenir plus de gages de Biden sur la question des entreprises européennes qui iront aux États-Unis. On a plutôt parlé de l'énergie, renouvelable, éventuellement les subventions de l'économie américaine pour permettre à certaines entreprises de diminuer leurs coûts de production, etc.
Ça s'appelle le dumping social.
C'est le discours, le discours officiel. Mmh. Mais rien que ça, c'est déjà offensant. Comment ça se fait que on en vient en fait carrément à demander aux Américains des subventions pour amortir l'inflation des entreprises qui doivent supporter ce coût des entreprises européennes. C'est quand même extraordinaire. Tu vois, non mais c'est ça en fait quelque part dans le discours officiel, c'est pour pouvoir amortir l'inflation que subissent les entreprises européennes
Atténuer l'inflation, pardon.
Amortir, atténuer, c'est la même chose.
Non, c'est pas tout à fait.
Bref, il s'agit en fait de ça, donc de l'économie américaine pourrait accorder, enfin le gouvernement
alors,
américain
le symbole, alors,
pourrait
il
accorder
il
des subventions.
Le symbole, il est dans l'indépendance.
Voilà. L'indépendance
il est dans l'indépendance ou
dans l'indépendance. L'indépendance que la France a perdue, clairement.
Et pas que la France, malheureusement. Parce que là, du coup, l'Europe ne joue pas son rôle de bouclier.
Oui, mais on se disait, la plupart des politiques se disaient les héritiers de De Gaulle. Enfin, De Gaulle est bien mort, et on s'en rend compte tous les jours. De Gaulle était un républicain social, et on a bien vu que la succession des présidents qui sont arrivés après, c'était une dégringolade totale vers un ultralibéralisme qu'on ne maîtrise plus. Alors c'était un ultralibéralisme triomphant pendant très longtemps, sauf qu'on y a perdu notre âme, et qu'aujourd'hui on est juste à un 53e État des États-Unis. Et Macron ne l'a jamais renié. Au contraire.
Non, mais c'est l'atlantisme, Macron, le sait très bien.
Oui, mais il a eu beau clamer qu'il était le nouveau De Gaulle. D'ailleurs, je ne sais pas où il a vu cette référence-là.
Vous ne parlez pas
l'anglais,
déjà.
Non, mais je ne sais pas où il a vu cette référence-là, mais c'est l'anti-de gaullisme par excellence, Macron, justement.
Surtout que là où De Gaulle a été fort, c'est que... alors que il y avait le plan Marshall qui se mettait en place, il avait réussi quand même à négocier, on va dire, une place plus prépondérante pour la France que de ne pas céder la France au travers de tous ces endettements.
Et tout ça grâce aussi au développement des programmes nucléaires, des programmes nucléaires qu'on a bradés, qu'on a laissé tomber, par Hollande d'abord, et puis après Macron qui s'est fait fort pour racoler l'électorat gauchiste et surtout écolo, en disant, bon, c'est bon, on va laisser tomber, on va aller vers les éoliennes, et on se rend compte aujourd'hui que c'est une vaste, vaste fumisterie, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. On a nos centrales ne fonctionnent pas comme elles le devraient. On en a même fermé une.
Pourquoi? Parce qu'elles sont pas en état de fonctionner.
Et pourquoi elles sont pas en état de fonctionner?
Parce qu'on a
pas entretenu.
Mais bien sûr, c'est ça.
Voilà.
Et aussi les centrales qui sont en fin de vie aussi.
Et on se pend nous-mêmes, quoi.
On est parti ouvrir des centrales électriques.
Et centrales, effectivement. Mais je pense que l'autre inquiétude qu'on doit avoir, parce que la France a bradé beaucoup de bijoux de famille aux États-Unis avec l'histoire d'Alstom et tout un tas de scandales comme ça qui ont été, ils ont dû racheter au prix de l'or quelque chose qu'ils ont vendu à bas prix. Non, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question la plus inquiétante, c'est que les deux grandes puissances industrielles européennes, ne sont plus les Français évidemment, ni les Anglais, c'est juste une place financière. Les deux grandes puissances, c'est l'Allemagne et l'Angleterre, et les pays périphériques de l'Allemagne. C'est-à-dire l'ancien giron allemand, tout ce qui est Bulgarie, Pologne, tout ça. Donc ces pays-là commencent à ressentir effectivement la manœuvre américaine grossière. Et si ces pays-là sont impactés dans leur industrie, l'Europe ne vaudra plus grand-chose. Et ce qui se passe, c'est quand Macron va aux États-Unis, qui est un atlantiste, hein, il parle anglais couramment. D'accord. Il est amoureux du système américain. Il ne se cache même pas du fait qu'il a envie de privatiser tout un pan de l'économie jusqu'au social.
C'est ce qu'il est en train de faire.
Donc il privatise. Il met une pression sur le public pour que le privé prenne le relais. Eh bien aujourd'hui, on a un homme politique qui se rend compte qu'il a été aussi blousé. Il s'est fait avoir. Qui va aux États-Unis en affichant un discours bidon de soi-disant captation de l'argent. Mais les États-Unis ont fait un plan, un immense plan Marshall pour eux. Hein. Ils ont fait en sorte que les entreprises s'installent chez eux, que ça ne leur coûte pas cher, et que l'énergie coûte pas cher et qu'il n'y ait pas d'impôts. Voilà ce que font les Américains. Il y a une loi qui est passée récemment dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, la peur européenne qui est légitime, c'est pas d'avoir une Chine qui est en concurrence avec elle, puisque la Chine est en concurrence avec le monde entier. C'est de se retrouver complètement spoliée de ses richesses vers les États-Unis, qui deviendront la grande puissance contre la Chine, et les Européens deviendront effectivement que des États satellites.
Et on nous fait croire pendant ce temps-là que la Russie est le grand
délire. Ça, c'est grave. Franchement, faut pas que ça arrive.
On va juste faire une pause, la dernière d'ailleurs, de la tranche, pour une dernière ligne droite. On va parler d'inflation, la hausse des prix dans l'alimentation, et on parlera aussi de la Chine. A tout de suite, messieurs. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
19h18, dernière ligne droite, avec Jean-Pierre Colombiès, avec Gamal Abina, mais aussi avec Rudy Kazi. On va parler d'inflation et puis direction l'international avec la Chine. L'inflation et puis à quelle sauce allons-nous évidemment être...
Manger,
oui. C'est le mot qu'on peut dire. Gagner un petit feu. On parle de produits, de la vie quotidienne. Vous savez que la hausse des prix devient de plus en plus présente. Et d'ailleurs, c'est impressionnant quand on voit entre 20 et 30% de plus. Sur tous les produits, d'ailleurs. Il y a pas, ça va des pâtes en passant par l'huile, etc. Alors, comment s'en sortir? Parce que là, ça risque de devenir... On est quand même sur un terrain social qui risque d'être explosif, Jean-Pierre Colombiès.
On est sur un volcan.
Pour l'exécutif.
Enfin, pour moi, on est sur un volcan. Parce
c'est
que
pas mal, sur un volcan.
Au bout d'un moment, c'est trop. Comme dirait la publicité, tu dépasses les limites de...
Enfin, même la baguette de pain, j'ai vu.
Bornes des limites.
Toujours, la dernière fois, je suis rentré dans la boulangerie.
Oui.
La baguette de pain.
Oui,
ça m'a choqué.
Non, mais il faut dire une chose très claire.
Alors que la France produit du blé.
Oui, il faut être très clair. On est sur un impôt parfaitement antisocial. Je pèse mes mots. C'est des plus pauvres. Oui, une imposition cachée, un prélèvement caché qui va reposer et qui.
Mais là, tout augmente.
Oui, mais justement.
Le ticket du métro, Navigo, les pâtes.
Mais ça se transforme en TVA.
Tout
ça, ça se transforme en TVA.
Ça génère beaucoup de TVA.
Voilà, ça génère beaucoup de TVA et ça rentre donc dans les poches de l'État. Et tout ça, et on va être très clair, c'est un impôt sur la précarité, sur un impôt sur les gens les plus pauvres. Tout simplement. Quand vous augmentez le pass Navigo, les transports, l'énergie, l'électricité, j'écoutais encore, il y avait ce matin, ou hier, je ne sais plus, enfin, c'est en tout cas très récemment une manifestation des bouchers dont une grande partie va mettre la clé sous la porte parce que leur frigo fonctionne bien évidemment avec de l'énergie, de l'électricité et que la facture pour certains était multipliée par 4, 5, 6. Enfin, on atteint des sommes complètement surréalistes. Donc, tous ces commerçants vont fermer, purement et simplement. Donc, on va vers des faillites en masse. On va sur une précarité de la société de plus en plus forte et tout ça repose sur les plus humbles. La nourriture, enfin, je veux dire, ça ne touche pas les gens qui sont les plus fortunés. Et dans le même temps, nous avons un gouvernement qui, de manière
particulière. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on va créer un fossé?
Mais on est déjà en train
de plus en plus pauvres, oui, et la classe médium, la classe moyenne va disparaître.
C'est pour ça qu'on va avoir une explosion sociale. Et en même temps, ce gouvernement refuse l'imposition des plus grands profits. C'est là où il y a une aberration et une injustice absolue. On ne taxe pas plus le profit de la rente, enfin le profit généré par la rente, et par contre on va prendre dans la poche des plus fragiles l'argent qui va probablement compenser la facture énergétique et le remboursement du quoi qu'il en coûte.
Gamal Abina. Bah,
j'allais dire qu'effectivement, les chiffres de l'inflation qui nous annoncent, qui sont ridicules, je dis ridicules et mensongers, on va être très clair. On avait l'inflation, alors moi je suis...
Ridicules et mensongers quand on va au supermarché.
Les chiffres officiels avancés. On le sait, nous. Mais les chiffres officiels sont
mensongers. Les chiffres officiels, d'accord. Okay.
C'est-à-dire qu'ils nous annonçaient l'inflation, quand on sait compter, qu'on fait un peu de moyenne, c'est pas compliqué de faire une moyenne. Vous avez 12 mois, vous divisez par 12, l'inflation moyenne de chaque mois. On avait une moyenne de 8%, on devait monter à 10, on est descendu à 6,5.
Ouais.
Par quel miracle on arrive à descendre en inflation quand tous les produits de base, je ne parle pas des produits de luxe, mais de base, ont augmenté. En vérité, on a des augmentations qui vont de l'ordre de 10 à 200%. Alors, pour ceux qui ne savent pas compter, 200%, ça veut dire quoi? Si vous achetez un produit à 1 euro, il vaut 2 euros, tout simplement. Il faut multiplier par 2. C'est pour ça qu'on parle de 200%, deux fois plus. Aujourd'hui, c'est ça l'inflation qu'on observe. Donc, la moyenne de l'inflation inflationniste, c'est d'être autour de 20 à 30%. C'est ça les chiffres réels.
C'est ça, oui.
Si on prend un panier élargi. Et donc, quand on a des gens pauvres, déjà, dans une situation de crise, avec la peur du lendemain, parce que tout le monde ne gardera pas son emploi, ça vient d'être dit à l'instant, les bouchers par exemple. Quand on a des lois qui commencent à être négociées pour, par exemple, en finir avec les squatteurs, alors que le pays se fragilise pour finir avec les squatteurs, il faut construire des logements. Hein, mais bon, tout cela va conduire.
Il y a aussi des squatteurs qui occupent des appartements.
Oui, on le sent bien, mais je veux dire.
Qui sont une source de revenus.
Il faut merci pour la précision.
Ça, on parle des marchands de sommeil, on est d'accord.
Voilà, il n'y a pas que des gens honnêtes.
Oui, tout à fait, des deux côtés, pas de problème. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a globalement une fragilisation de la société, une paupérisation de la société, une classe moyenne qui se réduit comme peau de chagrin, et un gouvernement qui, en dépit du fait qu'il donne 100 euros par-ci par-là, ne pourra pas faire face à cette vague inflationniste violente. Donc, s'il faut se poser comme question aujourd'hui, c'est quelles seront les conséquences si il va y avoir une mèche qui va bientôt s'allumer. Cette mèche s'allume, quelles seront les conséquences s'il y a une coalition entre les syndicalistes, les manifestants énervés, les ex-gilets jaunes et évidemment ceux qui sont les plus pauvres.
Ça promet tout ça quand on vous écoute, vous. Oui. Vous êtes alarmant ce soir, hein?
Non.
Rudy Casi.
Bah, surtout que pour ajouter à ce qui a été dit, faut quand même se rappeler que le gouvernement a débloqué un certain montant pour réduire notamment la facture du coût de l'augmentation de l'énergie.
Chèque de
voilà,
200 euros.
Que ouais, mais grosso modo, c'est quoi? C'est 20 millions, 30 millions d'euros. Et c'est de l'argent qui sort d'où? C'est de l'argent des Français, c'est de l'argent public.
Du déficit.
C'est du déficit public. C'est de l'argent de la dette. C'est de l'argent. C'est de l'argent de la dette. C'est surtout de l'argent que les Français vont se retrouver à payer. Donc effectivement, derrière, il y a l'idée en fait qu'on se fait de ce que va devenir la population française. Derrière, c'est quand même une classe moyenne qui diminue de plus en plus, qui fuit les grandes villes. C'est une paupérisation.
Et depuis le Covid d'ailleurs, tous les cadres moyens ont fui la ville, ils sont en province maintenant.
C'est ça le problème.
Bordeaux, Lyon, Toulouse,
ils sont dans la banlieue française, mais ils sont pas dans la petite couronne. Ouais. Ils sont dans la grande couronne. Donc on est en train de vivre effectivement une situation de prolétarisation de la population.
C'est gentil pour les derniers, parce qu'il y en a qui ne travaillent même plus après.
Ouais, voilà. Bon, alors à la limite, quand je parle de prolétarisation, je parle pas que d'un point de vue économique, je parle aussi du point de vue de la perception, de la reconnaissance. On parle quand même de Français, on parle de l'avenir de la France. Et on est quand même au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça va donner à la fin du quinquennat? Et là, en l'occurrence, les 20-30 milliards qui ont été mis pour essayer d'amortir le coût de l'augmentation de l'énergie, ça va durer jusqu'au début du prochain trimestre.
Oui.
Quid de ce qui va se passer après? Parce que cette inflation-là, c'est une inflation avec laquelle, c'est comme on nous avait dit pour le Covid-19, il va falloir vivre avec. C'est pas une inflation qui va se retourner tout de suite, parce que les implications sont niveau monde. Beaucoup trop de demandes par rapport à une offre qui était tombée en baisse par rapport au Covid-19. Ouais. Par rapport au carburant, il y a eu un excédent effectivement de carburant. Alors du coup, les raffineries veulent les grèves. C'était parce qu'en fait, ils voulaient se faire de l'argent.
Un excédent de carburant, j'ai pas compris. L'excédent de carburant, j'ai pas compris.
Oui, parce que pendant le Covid-19, il y a eu du carburant qu'on n'a pas vendu.
Mais la spéculation à la hausse n'a pas changé. Hein.
Bah, et ben justement, c'est ça le problème.
Mais vous êtes en train de dire, si je vous écoute, vous trois, la liste s'allonge. Les ménages, évidemment, vont raquer de plus en plus. Et la liste, elle est en train de s'allonger.
C'est ça. Alors, au-delà, effectivement, d'une crise sociale qui risque de repointer le bout de son nez, parce que jusqu'ici, par exemple, c'est ce qu'a souhaité la France insoumise, c'est qu'il y ait une espèce de convergence des luttes, de l'indignation, et qu'on arrive à un système de blocage.
Pour l'instant, ça n'a pas marché.
Parce que c'était une volonté politique, une prévision politique. Oui, ce genre de choses, ça arrive tout seul. Ce qui est arrivé par les Gilets jaunes.
Oui, mais il faut rajouter à ça la incapacité totale. Vous allez trouver encore que je fais une fixation, mais je crois pas. Une incapacité totale du gouvernement et de Macron en particulier à communiquer et à trouver les bons mots et à continuer la provocation, notamment avec le dossier des retraites, qui veut absolument imposer pour la rentrée 2023. Si on veut faire exploser un pays, c'est le meilleur moyen. C'est la plus mauvaise des réformes au plus mauvais moment.
C'est ce que je disais, mais moi je pense que ce qui mettra le feu aux poudres, s'il doit y avoir vraiment une indignation populaire qui conduirait dans les rues, c'est toujours à ce qui va toucher le pouvoir d'achat, je pense. Parce que là, maintenant, c'est plus c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir de manger. Parce que la plus grosse inflation, elle se retrouve surtout sur l'alimentaire. Juste peut-être un petit peu de pub, parce qu'avec mon association, on a écrit un livre qui s'appelle La Promesse Républicaine. Et dans ce livre, j'ai écrit, en fait, sur le lien de causalité entre la paupérisation, la malbouffe et les problèmes de santé. Et la, déjà, à cause du Covid-19.
Oui, il y a mal.
Ok, en fait, donc, ce que je voulais juste dire rapidement par rapport à ça, c'est que par rapport au ménage, on réduit d'abord sur l'alimentaire. Bon, je n'ai pas beaucoup parlé, vous avez plus parlé que moi, les amis.
Non, c'est pas vrai, mais c'est pas grave.
Toi, on entame des missions.
Attends, on va pas recommencer. Il n'y en a pas un qui parle plus que l'autre. Si on commence à faire ça, si on commence à faire ça,
je plaisante un petit peu quand même.
Donc,
en tout cas, c'est dangereux pour le.
Pour l'exécutif.
Pour l'exécutif,
qui a déclenché la Révolution française, c'était le peuple veut du pain. Lorsqu'on touche aux besoins primaires de Maslow, la fameuse pyramide de Maslow, lorsqu'on touche aux besoins primaires, on touche effectivement à ce qui, a, à ce qui génère la vie, ce qui permet de se maintenir en vie. Donc là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir un facteur déclenchant? C'est une bonne question. Est-ce que le gouvernement a les moyens de pouvoir y répondre? J'y crois pas vraiment, sauf par l'endettement. Et surtout, est-ce que cette inflation peut être maîtrisée? Et je crois pas qu'elle puisse être maîtrisée parce que malheureusement.
Les chèques énergie, les.
Non,
des miettes.
Il faut bien comprendre. Attends, je vous explique une chose.
Non, mais ça va pas.
Ils le font.
Adil. Oui. Quand on a une hémorragie, c'est pas parce qu'on met des pansements dessus que l'hémorragie s'arrête.
Oui, mais on fait. Alors, s'ils font rien, les exécutifs, on va dire. Ouais,
il faut contrôler les prix. Les chèques énergie ne feront pas de différence.
Loi du maximum de Robespierre.
Voilà. Et donc, quand on est
sur l'alimentaire.
De Gaulle, De Gaulle qui était de droite quand même, il a contrôlé les prix avec le Conseil national. Il faut tout faire bloquer. Parce que si on bloque pas les prix, par exemple, le pain à 1,10, la baguette à 1,10, c'est intolérable. On est à 15% sur un produit.
C'est gentil, maintenant, elle est à 20, 30, 40 parfois. Mais Kamal, 1,40, j'ai vu.
Surtout dans les grandes surfaces.
On est quand même dans des petites
surfaces. Tu as des grandes surfaces qui font des marges brutes énormes, alors même que, auprès des producteurs, il n'y a pas forcément une d'augmentation. Donc, il est surtout là le problème parce que les grandes surfaces qui y va, c'est le entre guillemets le français moyen, celui qui a déjà du mal à boucler les fins de mois, et celui qui rogne sur l'alimentaire parce que tout a augmenté, l'énergie, le loyer, etc.
On va tous avoir la même bouffe.
Donc c'est ça en fait. C'est là on est en train de toucher, on est en train de toucher à la dignité de l'être humain. Je rappelle l'article 25 des droits de l'homme et du citoyen. C'est sur en fait le niveau de comment dire le niveau de vie, c'est-à-dire tout homme a le droit à un niveau de vie normal, pouvoir prendre en charge son emploi, son alimentation. Et sa santé.
Merci.
Parce qu'à un moment donné, on parle de la santé des gens. L'alimentaire, c'est aussi la santé.
30, ça y est, je dois rendre l'antenne. À 30, je rends l'antenne. Merci, Rudy Casi. Merci, Jean-Pierre Colombier.
Il y a une chose très vraie, député du 15e de la Commune de Paris, il disait entre la liberté et le pain, les gens choisiront le pain.
Ah, bien sûr.
Et donc, éviteront peut-être.
Et moi, je dresse une pierre tombale au bio qui commence à souffrir, parce que quand il n'y a pas d'argent, on ne va plus sur le bio.
Ça c'est vrai aussi. Et vous avez raison de le rappeler. Merci messieurs. Merci infiniment. Vous allez retrouver Bilal Nedman et la Coupe du Monde, Time Sport, 19h30 dans une poignée de minutes. C'est avec lui, ça se passe, et sa fine équipe. Merci à la réalisation, à Anthony et aux nombreux auditeurs qui vous ont interpellé, Jean-Pierre, tout à l'heure sur les conseils. On remet ça. Hein,
plaisir de lui répondre quand vous voulez, très cher. Quand vous voulez.
Merci à vous. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.